Ensuite, sur la question anthropologique, ça peut paraître anecdotique et on peut penser à ce moment-là surenchérir, redonder justement sur tout un discours d'escorte qui est un petit peu finalement met en scène une certaine culture de la peur hein, vis-à-vis justement de la technique. Juste, voilà, il se trouve que celui qui a rédigé en 2005 la théorie de la singularité, qui consiste justement à prendre comme pour appui la loi de Moore et finalement voilà, l'évolution des techniques, la miniaturisation des techniques, etc., il y a cette idée voilà, que pour Reis Kurzweil, il y avait cette utopie d'arriver en 2045 à la fusion homme-machine. Avec cette idée, par exemple, de toute la recherche qu'il y a sur l'intelligence artificielle. On va un peu vite ici, mais bon. C'est vrai que tous ceux qui cartographient le cerveau permettent de mieux connaître l'activité du cerveau. Et aujourd'hui, chez Google, vous avez un développement de ce qu'on appelle DeepMind, donc mise au point de ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui permettent justement des apprentissages machines extrêmement poussés dans la reconnaissance visuelle. Et donc ça, c'est mis au point justement chez Google sur la base justement de cartographie du fonctionnement du cerveau. Donc on se dit finalement, dans tout ce qui est développé autour de Google, autour de DeepMind et de cette réflexion autour de l'intelligence artificielle dans laquelle est mis énormément d'argent, il y a quand même évidemment cette idée qu'on peut arriver à artificialiser l'humain et donc d'une certaine façon à muter, à entreprendre une mutation de l'humanité ou développer ce qu'on appellerait une transhumanité, une humanité plus gaie à la technologie, puisque Ray Kurzweil, en fait, c'est lui qui s'occupe un peu du labo de tous ces projets innovants. Et puis qu'il y a beaucoup d'investissements, notamment autour de la bio-ingénierie, tout ce qui est ADN, etc., qui est aussi un code source. Hein. On peut se poser la question voilà, de si la réalisation du projet de Kurzweil n'est pas rendue techniquement et financièrement possible au sein de Google. Et donc, ça pose tout un ensemble de questions. Sachant que ce qui est problématique, en fait, dans le récit transhumaniste, c'est aussi l'anthropologie compétitive entre humains et non-humains, entre humains et techniques, qui est mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que ça alimente un peu la peur, justement, d'une certaine technologie qui va finalement prendre le dessus sur l'homme. Et donc, on est quand même sur une anthropologie qui, finalement, fait jouer à la technique et la machine le mauvais rôle, celui, justement, de faire muter l'espèce humaine, de la transformer, de l'artificialiser. Et donc, on voit bien qu'on est dans ce que, typiquement, Haraway et Latour appellent des anthropologies compétitives. En termes d'être technique, l'humain et la technique, ici, ne sont plus en position symétrique, mais sont en position, justement, de domination de l'un par l'autre. D'accord ? Et donc, c'est aussi une problématique en termes anthropologiques qui est importante à mettre en avant. Alors, jusqu'à présent, quand j'avais travaillé sur, quand j'avais pensé cette association pour contrefaire cet Internet des objets industriels hein, et de son modèle d'affaires et son imaginaire et les technologies même et les usages possibles, j'allais directement en fait à la dernière partie. Sur justement ce que peut le mouvement Maker et qu'est-ce qu'on peut imaginer avec des capteurs citoyens. Mais il se trouve, donc on a commencé à monter cette association en 2012, les premiers projets 2013 on dit sur la pollution, 2014 électricité. Mais depuis lors, en fait, un autre grand récit est venu finalement s'interposer, faire pendant au grand récit transhumaniste, qui est un peu sous-jacent au projet industriel, de certains industriels de l'Internet des objets. Et c'est le récit collapsologiste, puisque Pablo Servigné sort l'ouvrage en 2015, et puis on observe, ça Cyprien, je te tasse, pourrait peut-être en parler aussi, on observe ce qu'on appelle des conversions collapsologistes, qu'on peut appeler en ce sens, parce qu'elles sont racontées en tant que telles par différents acteurs aujourd'hui du mouvement collapsologiste. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce grand récit collapsologiste qui viendrait faire pendant au récit transhumaniste a été aussi justement formalisé en tant que tel, a été pointé en tant que tel, a été désigné en tant que tel comme interlocuteurs par exemple Laurent Alexandre, qui est un fondateur de Doctissimo, mais qui est un zélote du transhumanisme en France, avec son livre sur la mort de la mort, etc., qui reprend le projet des extropiens, des transhumanistes historiques. Et donc, dans une tribune de l'Express d'il y a quelques mois, un 22 février 2018, il a mis en pendant le récit transhumaniste et le récit collapsologiste, en défendant notamment les projets d'Elon Musk, SpaceX, de s'envoyer sur Mars, et donc de dire les collapsologistes sont malthusiens, les collapsologistes pensent à justement une régression de la modernité, nous, enfin pas nous, mais les transhumanistes sont expansionnistes, ils croient encore à la croissance, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'en effet on observe des conversions collapsologistes depuis 2015, il y a ce projet industriel des objets connectés et du big data, qui est quand même lié à manifestement un projet transhumaniste, et de voir que finalement ces conversions collapsologistes, la théorie collapsologiste est considérée par finalement les transhumanistes comme finalement l'autre grand récit, ça devient un interlocuteur, il y a quand même une focalisation et une polarisation qui est explicitée notamment par un des leurs qui est donc le docteur Alexandre, d'où un court-circuit en fait dans la présentation, un collapse en fait, puisqu'il faut aussi parler maintenant de la collapsologie avant de se demander ce que peut les makers et si on doit penser transition ou résilience, parce que c'est la question qui se pose désormais, puisqu'il y a un autre récit qui intervient, qui est le récit de l'effondrement, qui fait pendant au récit de l'effondrement, et que ce récit de l'effondrement, il a aussi demande de recoder ce qu'on appelait autrefois transition, peut-être en résilience. Voilà. Alors parmi les éléments qui fondent ce grand récit collapsologiste, vous avez par exemple ce qu'on appelle le dashboard de l'anthropocène, hein, c'est-à-dire toutes les courbes qui vont dans le sens de l'effondrement qui vient. Et puis alors, donc voilà, je vous présente en France la scène des acteurs de la scène collapsologiste. Donc vous avez Pablo Servigné qui est ici avec Raphaël Stevens, l'auteur de l'ouvrage un peu clé, hein, qui s'appelle « Comment tout va s'effondrer », mais qui lui justement milite, hein, pour la résilience, d'accord ? Pas pour la transition, mais pour la résilience. Alors vous avez une série qui s'appelle « Next », appelle l'effondrement qui vient, qui présente justement les théories et les manières justement dès à présent de cultiver la résilience. Donc c'est une web-série qui est présentée sur Internet. Et alors ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est d'un point de vue, alors la communicationnelle, c'est que c'était une thématique qui était automédiatisée, c'est-à-dire vous aviez des associations, comme la première association collapsologie, c'est celle d'Yves Cochet à Momentum, créée en 2010, mais vous avez une plus jeune association qui s'appelle Adrastia, qui est présidée par Alexandre Monin, qui est donc un philosophe du numérique, qui est une plus jeune association, et qui donc anime par exemple différents groupes Facebook, dont un est assez important, qui s'appelle Transition 2030, avec des groupes régionaux. Vous avez des débats, des échanges d'informations sur les indicateurs de l'effondrement, des réunions, des rencontres, etc. Donc vous aviez à la fois tout un mouvement associatif et puis toute une automédiatisation par justement Facebook, par des web-séries. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis... le mois de mai, en fait, avec la sortie de l'ouvrage de Julien Vonitsa, qui s'appelle « Pourquoi tout va s'effondrer ?», vous avez une médiatisation qui s'opère donc dans les chaînes de télévision traditionnelles. Donc là, c'est plus l'automédiatisation par le mouvement lui-même, mais comment, justement, c'est en train de devenir un topoï médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Vonitsa passe à la télé, et que si ça passe à la télé, c'est que ça existe, hein, donc il y a un effet aussi performatif, hein, de ce grand récit par le fait qu'il devient un récit médiatique, et il faut aussi observer la médiatisation de ce récit, parce que comment c'est raconté, hein, on passe de l'effondrement à la catastrophe, par exemple, dans le lexique, hein, c'est plus totalement le même vocabulaire, hein, parce que c'est plus vendeur, et donc on est sur des narrations millénaristes, hein, la peur de l'an 1000, la peur de l'effondrement. Et puis alors à chaque fois qu'il y a un passage média, il y a Julien Bonicia qui va s'intéresser aux différents groupes et qui dit « Bon alors, vous voudriez que je parle de quoi la prochaine fois? Est-ce que vous avez d'autres chiffres pour que... » Voilà. Et donc il y a l'idée voilà, que ce récit médiatique, il est aussi développé en commun avec les acteurs du mouvement. Mais c'est un grand succès aussi en termes de vente. Hein. Et on voit que donc ce grand récit se diffuse et finalement... donne lieu à un récit médiatique qu'il faut quand même surveiller dans le lexique. Et c'est intéressant d'avoir justement cette auto-surveillance par le mouvement pour faire en sorte que ce qui relève de l'effondrement ne devienne pas un vocabulaire de la catastrophe, etc. Je vais vite. Donc ici, c'est ce qu'on appelle justement, ça fait partie des éléments avec le dashboard de l'Anthropocène, ça fait partie des éléments du grand récit collapsologique qu'on appelle donc la courbe de deuil, hein. C'est-à-dire que vous avez un effondrement des ressources fossiles qui va entraîner tout un cascade d'autres effondrements du système économique, des crises démographiques, crises alimentaires, etc., crises sanitaires. Donc vous avez un effondrement généralisé et évidemment préparer dès à présent la résilience, s'y préparer. Et donc, on n'est pas du tout dans une problématisation en termes de transition, mais là, en termes de résilience, parce qu'il y a un effondrement. Donc, on ne passe pas d'un état à un autre, on ne transitionne pas, en fait. Il y a un effondrement et on répare, vous voyez ? On répare, on se répare et on répare. Donc, c'est un peu ce qu'illustre, hein, cette courbe de seuil qui est un graphisme qui circule énormément hein, donc, dans les différents groupes collapsologiques. Tout ce corpus-là que je vous présente, ce sont des corpus collectés par justement le suivi et la participation aussi à ces différents groupes en ligne liés au mouvement collapsologiste. D'accord ? C'est pas des corpus, ce sont des corpus endogènes, comme on dit, d'accord ? Collectés par à la fois intervention, hein, mais aussi ce qu'on appelle de l'observation diffuse, c'est-à-dire aussi observer des interactions en ligne, en plus d'y participer. Alors, donc c'est un peu dans ce cadre-là, maintenant, je pense, le travail de l'association. Alors qu'autrefois, à sa création, on était véritablement dans l'idée d'un contrefaire, d'un faire un autre monde connecté possible. Ici, il y a l'idée que cet autre monde connecté possible, il est peut-être aussi lui soumis à l'effondrement et donc il est en quelque sorte déjà une tactique de résilience en tant que telle et il n'est pas pensé comme transition d'un modèle privatiste d'abord à un modèle qui serait beaucoup plus justement tourné vers l'intérêt général avec une protection des données personnelles. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter un peu quel est cet autre modèle de l'Internet des choses, comment on peut développer un autre monde connecté possible. Donc l'idée, c'est qu'on contrefait le soi quantifié, donc on est plus dans ce que j'appelle moi le nous quantifiant. On développe non pas du big data, mais ce qu'on peut appeler des small data, et je vais vous expliquer ce qu'on peut appeler comme small data. Et alors, je ne le développerai pas ici, mais il y a quand même un modèle anthropologique inspiré par le travail de Donna Haraway, dont j'ai été traductrice avec Delphine Gardet et Nathalie Magnan. Donc on a rédigé une anthologie des travaux de Donna Haraway, qui s'appelle donc Manifeste cyborg et autres essais, Paris à exil en 2007, science-fiction féministe. Mais donc il y a quand même l'idée d'une anthropologie symétrique, ce qu'elle appelle aujourd'hui le Tchulululucène, avec justement tout un ensemble d'acteurs non humains qui sont aussi à prendre en compte dans justement ce post-anthropocène, ce qu'elle appelle elle le Tchulululucène. Mais ça, je ne vais pas développer, on peut développer en débat ou pas. Voilà, mais bon, il y a un peu cette problématique, ce que Haraway appelle la biosocialité ou ce qu'elle appelle le kin aujourd'hui dans son travail sur le Tchulululucène ou ce qu'elle a appelé justement la biosocialité autour des compagnons d'espèces, hein. Donc de considérer les humains et non-humains en symétrie, mais surtout en relation de compagnonnage, donc d'inventer le lien social, en fait, hein, qui peut unir des choses et des êtres. Alors, donc l'idée, hein, voilà, c'est qu'il était possible de concevoir un autre monde connecté possible parce que, eh bien, d'une part, techniquement, ce qui est intéressant dans l'Internet des objets, dans le tout connecté, c'est qu'il y a une sorte de rematérialisation du numérique, c'est-à-dire on va quand même connecter des choses. Et donc on a un tournant post-digital qui est assez intéressant en termes techniques. Et ce tournant post-digital, bah, c'est justement ce qui a inspiré le fondateur du mouvement des Fab Labs, qui s'appelle Neil Gaishanfeld, donc au MIT. Donc il est dit, on revient sur les atomes, hein, puisque la digitalisation a consisté à transformer des atomes en bits, et là on revient des bits aux atomes. Oui. Donc je vais aller vite, hein. Mais aussi parce que donc justement des espaces de fabrication personnelle se sont développés, et puisque aussi à travers toutes ces expérimentations se sont développées des réflexions sur les formes de propriété autour des données qu'on appelle justement tout le mouvement des communs, de ce qu'on appelle le renouveau de la propriété collective qui a été expérimenté. Donc rapidement, en fait, Neil Gaishanfeld, donc est un peu le père du mouvement Maker, qu'on appelle le mouvement Maker en France et dans le monde, est enseignant au MIT lorsque, donc en 2005, il rédige un ouvrage qui s'appelle Fab, La prochaine révolution. Et donc il explique qu'il y a eu la révolution de l'ordinateur personnel et maintenant, avec la rematérialisation du numérique ou la digitalisation du monde, on peut imaginer la révolution de la fabrication personnelle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer fabriquer des choses pour son propre usage ou pour l'usage d'autrui. Donc depuis, il a fondé ce qu'il appelle la Fab Academy, qui labellise des Fab Labs, donc des espaces dédiés à la fabrication personnelle. Il s'agit de suivre un cours pendant quelques mois pour 5 000 $ et donc de faire adhérer son espace à la charte des Fab Labs, qui suppose en effet que ce soit des espaces de fabrication personnelle, mais à visée collective, c'est-à-dire notamment les modèles, les fichiers imprimantes 3D relèvent de la propriété collective. Donc il y a une licence de type Creative Commons qui est mise en place par, c'est la licence MIT en fait, qui a été mise en place par Gaishanfeld. Donc je vais rapidement, mais voilà, c'est pour vous montrer souvent de quoi est composé un Fab Lab. Vous avez des pièces maîtresses qui sont principalement l'Arduino. L'Arduino, c'est un commutateur analogique numérique. Donc c'est ça qui permet de numériser les choses et de faire en sorte que, ça, parce que l'Arduino consiste tout simplement à faire produire de l'électricité et à transmettre cette électricité parce qu'elle a été numérisée, donc notamment sur les appareils qui peuvent recevoir des signaux numériques et en émettre. Voilà. Donc c'est un commutateur analogique numérique. Et donc ça a été inventé en 2015, j'ai mis 2005, mais c'est en 2015 par un designer qui s'appelle Massimo Banzi, qui voulait justement permettre à ses étudiants en design de faire du prototypage rapide, donc de programmer des choses en fait, hein, de leur faire actionner grâce à des cerveaux moteurs, de leur faire de programmer des choses, de les faire agir en quelque sorte. Voilà. Et donc dans les Fab Labs, vous avez des Arduino évidemment, et vous avez aussi l'imprimante 3D qui consiste justement à scanner des choses et à pouvoir les reproduire par ce qu'on appelle sculpture additive. Donc en France, vous avez quand même, il faut savoir que la France est un pays où le mouvement des Fab Labs est assez poussé. Vous avez toutes sortes de Fab Labs, industriels, des Fab Labs associatifs. Vous avez à peu près 400 Fab Labs qui sont en activité aujourd'hui. C'est la carte de Makery, qui est un petit peu le magazine du mouvement Maker en France. Et alors nous, notre idée dans l'association, c'était justement développer plutôt un Fab Lab qui était inclusif et non pas simplement réservé à quelques geeks, et de faire en sorte que Fab Lab s'organise dans la cité, c'est-à-dire de faire en sorte que la rencontre entre des populations qui ont besoin de ces technologies, c'est-à-dire de mieux connaître par exemple ce qu'elles consomment, et avec des ingénieurs, cette rencontre soit possible. Et c'est vrai que il y a peu de probabilité que, par exemple, des mères de famille de la cité de la Chapelle du 18e aillent au Fab Lab par exemple, de l'ENS Ulm, et donc que cette rencontre sociologiquement improbable soit possible. Et donc, on a imaginé faire en sorte que des populations et des techniques et des compétences se rencontrent, à la fois dans les Fab Labs, mais aussi dans les lieux où habitaient les populations. Et donc, on a mené notamment entre 2014 et 2016, donc une expérimentation qui s'appelait Citizen Watt, qui consistait justement à permettre à des familles de monitorer leur consommation électrique en temps réel dans deux cités, à Poissonnier dans le 18e et à la Chambaudie dans le 13e arrondissement. Et l'idée, c'était de faire réaliser les capteurs à but pédagogique. Alors, il s'agissait tout simplement de faire comprendre que l'on consomme de l'électricité, comment on la consomme, et de montrer tout simplement qu'il était possible, avec ce type d'objet, de pouvoir construire un capteur par soi-même. Et donc que la technologie n'était pas l'ennemi, que la technologie n'était pas finalement compliquée, que la technologie était finalement accessible à tous, notamment aux femmes, aux familles, puisque il y avait l'idée d'inclusivité aussi en termes des publics, de s'adresser aussi aux femmes et à tous les âges. Voilà. Alors voilà comment se présentait le dispositif, donc pince ampèremétrique, ensuite la plaque reliée avec un petit ordinateur qu'on appelle le Raspberry Pi qui va stocker la donnée et la renvoyer aux écrans de la maison. Voilà. À chaque fois, il y avait des entretiens de préinstallation et il y avait ensuite des ateliers d'interprétation des données. Donc c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle la small data. C'était l'idée que, justement, le scénario sociotechnique, il était local, c'est-à-dire la donnée ne sortait pas du Raspberry Pi, hein, donc c'était un scénario domestique, et que ensuite la donnée était à la fois donc renvoyée dans le cadre du foyer, mais comme on a des cités qui étaient issues d'un bâti qui était comparable, hein, tous les appartements étaient comparables en termes de bâti, eh bien il y avait la possibilité dans des ateliers d'interprétation collective de comprendre comment on avait de temps en temps des consommations un peu fortes, etc. Donc là, c'est la façon dont on avait, en tout dernier lieu, interfacé les données. Donc vous aviez, comme on était en partenariat avec RTE, on avait récupéré leur soi-disant open data de mix énergétique, mais ce n'était pas vraiment open data opérationnel, donc il fallait retravailler sur le fichier open data de RTE, sur du mix énergétique, mais bon, il y avait votre consommation, en temps réel, converti en watt-euro, et ensuite le dashboard en fait national, c'est-à-dire quel était sur la journée le mix énergétique, combien il y avait de nucléaire, d'hydro, etc. qui était versé dans le réseau électrique. Donc on était vraiment dans l'idée non pas du soi quantifié mais du nous quantifiant, c'est-à-dire que voilà, ces données ne sortaient pas du domicile, mais elles étaient parlées en fait par les habitants dans le cadre d'ateliers d'interprétation, dans le cadre de rencontres, et donc on était dans l'idée voilà que la data devenait conversationnelle, c'est-à-dire plutôt que d'avoir justement des big data qui parlent pour vous, vous étiez dans ce que j'appelle l'ethnomining, on utilisait les données, on était usager de ces mégadonnées, parce que c'était tout le temps réel, toutes les 8 secondes, ça commence à faire un grand jeu de données, mais cette donnée était parlée. On n'était pas parlé par de grandes institutions économiques comme les GAFAM ou comme EDF, voilà. Et bon, je vais arrêter là, mais... Voilà. Donc il y avait cette idée, hein, ce projet qui est toujours à l'œuvre, de quand même récupérer cette puissance de calcul, mais au profit des citoyens qui deviennent des citoyens capteurs et qui permettent d'avoir cette pédagogie au moins de l'énergie ici et maintenant pour cultiver alors la résilience si on ne peut pas transitionner d'un état à un autre. Voilà, je m'arrête là parce que je vois qu'il y avait deux fois les papiers là.